C'était prévu, hein. La chaleur s'est intensifiée ce jeudi, elle va même s'étendre vers le nord et l'est. C'est le troisième épisode en moins de deux mois. On a battu des records, on le sait. Donc on va regarder maintenant avec vous, Anthony Ferry, bonsoir.
Bonsoir.
Attentivement cette carte avec des départements qui sont en rouge et la grande majorité en orange.
Exactement, 76 départements au total en vigilance orange, mais surtout donc 9 départements que vous découvrez en vigilance rouge. Alors il s'agit de la Vendée, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe, de l'Ille-et-Vilaine, des Deux-Sèvres, du Morbihan et de la Vienne. Soyons
très clairs.
Oui.
Priorité au ministère des Transports, Monsieur Tabarot.
Je souhaite pouvoir faire, bien sûr, le tri dans ceux qui font les choses proprement, avec leur licence, qui payent les différentes taxes, qui les différentes obligations sociales auxquelles elles répondent, et puis ceux qui viennent et qui s'improvisent transporteurs de manière totalement illégale. Donc on le voit avec des taxis clandestins, avec des VTC clandestins qui opèrent également des choses qui sont interdites dans la profession, que ce soit le racolage, que ce soit les maraudes. Et on s'était engagé il y a quelques mois, je m'étais engagé auprès de ces professions de mener une lutte avec deux aspects, à la fois sur le terrain. Et ça, bien sûr, c'est le préfet de police qui le fait avec ses équipes de manière très opérationnelle et très régulière, que ce soit dans les principales gares, que ce soit dans les principaux aéroports, puisque c'est là que le flux est le plus important. Et quelque part, je le disais à l'instant, c'est également en dehors de la concurrence déloyale pour les personnes qui travaillent, c'est également l'image qu'on donne d'un pays, en l'occurrence une mauvaise image d'un pays qui accueille 100 millions de personnes.
Voilà, monsieur le Tabarofi, le ministre des Transports, qui là est sur la concurrence déloyale des taxis ou VTC clandestins, mais que l'on attend aussi sur le trafic des trains, la circulation des trains, puisqu'à cause de la chaleur, bon nombre vont être annulés ou reportés ou décalés. Revenons sur la carte de la météo avec vous. Donc
effectivement, 76 départements sont actuellement en vigilance orange. Alors, cette vigilance entrera en vigueur à partir de demain, vendredi midi. Mais surtout, donc, 9 départements que vous découvrez sur cette carte en vigilance rouge. En fait, cette canicule nous surprend un petit peu, car encore ce matin, nous ne savions absolument pas qu'une vigilance rouge allait être déclenchée. Et je vous rappelle, il y a une semaine, justement, Sébastien Lecornu lui-même disait qu'a priori, il n'y aurait pas de département en vigilance rouge durant cet épisode. Eh bien, en fait, en réalité, cet épisode est plus intense et surtout plus durable que prévu. On attend justement 40 degrés très localement, notamment sur ces départements. Et ce que vous découvrez, eh bien, sur cette carte, c'est un graphique qui vous montre le nombre de déclenchements de vigilance rouge. Depuis 2004, eh bien, vous voyez que toutes les vigilances rouges ont été déclenchées à partir de 2019 jusqu'en 2026. Ce qui vous montre une accélération de ces événements. C'est tout simplement un témoin du changement climatique. Et donc, très concrètement, il va falloir s'attendre dans les prochains jours sur ces départements en rouge à frôler les 40 degrés.
Donc, c'est le retour de la vigilance rouge canicule. Et puis, il y a cette précision de Météo France. Cette canicule, cette troisième canicule, devrait persister au moins jusqu'au mardi 14 juillet.
Voilà, le 14 juillet, ce sera vraiment à peu près la date butoir, si je puis dire, en tout cas là où on va connaître une transition. Il va faire chaud, vraiment très chaud jusqu'au 14 juillet, ça c'est une certitude. Si vous êtes sur la moitié nord, eh bien le pire est devant vous, puisque les températures vont augmenter ce week-end de 2 voire 3 degrés en journée, mais aussi, et c'est notamment d'ailleurs pour cela qu'on déclenche une vigilance rouge, la nuit. Et donc la nuit, on aura vraiment du mal, malheureusement, à retrouver ses esprits, à refaire le vide à l'intérieur de nous. Et ces températures, regardez, 35 degrés, elles vont être associées à un taux d'humidité. Et en fait, ça change tout. Parce que regardez le ressenti lorsque vous avez 35 degrés, ce que l'on attend par exemple à Nantes, avec une humidité de 40%, eh bien on ressent 42 et même 48. Et ça va mettre les organismes à très rude épreuve.
On va retrouver le transport là maintenant.
Vendredi, samedi et dimanche, on aura plus d'un million, pratiquement 1 200 000 personnes qui vont prendre le train. Et avec les opérateurs, nous souhaitons les mettre dans les meilleures conditions possibles. Déjà dans l'accueil en gare à travers, vous le verrez, des opérations qui sont faites avec les relais pour pouvoir donner aux personnes les plus vulnérables des bouteilles d'eau avant le départ. Et puis d'avoir un plan de transport qui puisse être le plus respecté possible dans cette situation où le matériel, ces derniers temps, a été quand même mis à mal. Les plans de transport ont été légèrement allégés cette semaine pour pouvoir permettre aux personnes qui souhaiteront utiliser les transports en commun, et en l'occurrence le train, de pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. Donc je pense à nos concitoyens et je pense également aux personnes qui utilisent les transports, que ce soit aérien ou le train, du monde entier pour venir découvrir la France, pour venir découvrir en l'occurrence Paris, et qui également ont besoin de transports en commun qui sont fiables. Avec monsieur le préfet de police, dans tout ce qu'on a eu l'occasion de vous montrer avec madame la vice-présidente de la région, bien sûr, c'est le transport du quotidien de nos concitoyens, mais on l'a vu, vous avez entendu parler différentes langues également. Beaucoup d'étrangers utilisent les transports en commun et sont quelquefois un petit peu moins attentifs ou moins vigilants que peuvent l'être nos concitoyens par rapport à certaines pratiques contre lesquels collectivement nous essayons d'agir. Donc il y a une attention bien sûr toute particulière également par rapport à ces touristes pour qu'ils gagnent.
Philippe Tabarot, le ministre des Transports, dans un instant on fera le point d'ailleurs avec notre journaliste Marine Musset qui suit ministre des Transports sur le trafic des trains à la veille de ce départ, parce qu'il rappelle qu'il y a 1 million de voyageurs qui vont aller un peu plus, qui vont aller dans les gares.
Alors, la chaleur perturbe, on l'a bien compris, le transport ferroviaire, et la chaleur a également des conséquences sur un réacteur de la centrale nucléaire de Golfech qui a été arrêté en raison de cette canicule, Gaël Musquet. En fait, c'est en raison des fortes températures enregistrées dans le bassin de la Garonne. Rappelons qu'une centrale nucléaire a besoin d'eau. Le problème, c'est que cette eau atteint maintenant les températures exceptionnelles.
Oui, alors en rentrant dans la centrale, évidemment, cette eau va être réchauffée par les différents organes de la centrale. Malgré les toits aéro-réfrigérants, cette eau va être rejetée dans le domaine naturel. Et c'est ça qui contraint la centrale à arrêter son réacteur. C'est que l'eau rejetée représente un danger pour la faune et pour la flore. Et je rappelle, hein, tous les industriels qui rejettent des eaux réchauffées dans des cours d'eau naturels doivent être soumis à ce genre de contraintes. Donc là, effectivement...
Parce que l'eau, au départ, celui du bassin de la Garonne, cette eau est déjà à 28 degrés.
Exactement. Et donc, au-delà des 28 degrés, il faut imaginer que cette centrale, elle va réchauffer cette eau. Cette eau va rentrer dans la centrale à 28, mais elle ne va pas ressortir à 28 degrés. Elle va sortir à des températures qui risquent de tuer des algues, des
donc
plantons.
Donc c'est pour ça qu'on ferme le réacteur.
Exactement.
Et alors le problème, c'est qu'à Golfech, il y a un deuxième réacteur qui est en ce moment arrêté pour maintenance. Donc c'est
tout
quand même
fait.
Une mauvaise nouvelle.
On est à 6%, là, ça impacte à 6% la production d'électricité. On a des cloches, hein, vous savez, la production d'électricité est à son maximum l'après-midi, au moment où le soleil est au zénith, pas vraiment au zénith, mais au plus haut dans le ciel. Donc on peut aujourd'hui arrêter un réacteur de ce type-là pour ces raisons-là. Et je le rappelle, toutes les centrales, pas que les centrales nucléaires, tous les industriels même qui utilisent de l'eau issus de cours d'eau, sont soumis à ce type
d'accord,
de restriction si jamais on a un sujet.
C'est un risque qui avait été identifié.
Tout à fait.
Le problème, c'est que si ces vagues de chaleur s'installent dans le temps, comment va-t-on faire ? Quels sont les moyens de pouvoir continuer à faire fonctionner les centrales ?
On va utiliser d'autres moyens de production. On a d'autres solutions. On peut utiliser des barrages hydroélectriques. On peut utiliser des centrales à gaz. On peut utiliser des centrales thermiques qui peuvent compenser l'arrêt de ces centrales. D'où l'importance d'être économe sur l'énergie. Alors là, on a un gros besoin de climatisation. Cette climatisation, elle tourne aux heures les plus chaudes. Aux heures les plus chaudes, donc, où le soleil est le plus haut. Donc, on arrive à compenser la surconsommation d'électricité liée à la climatisation grâce aux centrales photovoltaïques. L'éolien marche pas très bien parce qu'on n'a pas énormément de vent sur ces centrales éoliennes à cause de l'anticyclone. Mais on fait partie des pays qui gèrent le mieux leur grille électrique. L'arrêt d'un réacteur, ça n'est pas un drame dans les moments que l'on vit là. Et on peut évidemment comprendre que compte tenu des circonstances naturelles, on soit prudent.
On va continuer de mesurer les conséquences de cette canicule, de cette chaleur, de cette sécheresse. Sur les organismes, dans un instant, avec notre spécialiste santé, Margot de Fauville. Mais la priorité, c'est aussi le front des incendies. C'est Mathéo Rivière qui est à Perpignan, où un incendie s'est déclaré à proximité de l'aéroport, Mathéo.
Oui, c'est ce que craignaient les pompiers avec cette tramontane même affaiblie et ses fortes chaleurs et cette végétation très sèche. Vous le voyez, ce feu qui est en cours à quelques mètres à peine de la piste de l'aéroport de Perpignan, Rivesaltes. Depuis quelques minutes, la scène à laquelle nous assistons avec William Gay, ce sont des avions venus en renfort de l'Europe qui larguent donc du retardant sur ce feu qui persiste depuis maintenant plusieurs minutes. On a croisé justement la route de Serge, qui est un habitant. Serge, vous êtes en train de prendre des photos stupéfaits. Voilà. Encore un nouveau départ de feu.
Ben, un de plus, hein. Un peu de temps, ça fait trois. Hein. On en a eu un à Bao, on en a fait quatre, on a Cagny, un autre là-haut qui a duré quatre jours et qui n'est pas encore terminé. La montagne, ça a brûlé presque 5000 hectares. C'est incroyable. Hein. Moi, j'ai des amis qui ont tout perdu. Tout, absolument tout. Ils n'ont plus rien.
Là où on voit l'étendue de ce feu, c'est justement que même ici, à quelques mètres de l'aéroport, on voit qu'il y a des départs de feu.
Voilà, même là, parce que la végétation, regardez comme elle est, c'est sec. En plus, il y a du vent, le vent a tourné là. C'est plus de la tramontane, c'est du vent marin. Alors, ceux qui, quand on protégeait d'un côté, c'est arrivé de l'autre maintenant. Alors, on n'en finit plus. Je ne comprends pas. Quand même, tous ces départs, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre.
Merci Serge, on voit beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations ici alors que plusieurs largages sont encore en cours ici avec notamment des Canadair qui continuent de larguer de l'eau parce qu'ici, eh bien évidemment, les pompiers sont vigilants alors que le département connaît le feu le plus important depuis 50 ans.
Après Mathéo Rivière, on va aller du côté de la Drôme aussi avec des incendies qui continuent de se déclarer. On a Romain Etuin qui est à Barsac, il est sur place pour BFM TV. Les flammes, justement, se rapprochent d'une commune qui a été évacuée.
Bien, tout à fait. Vous le voyez juste derrière moi sur ces images de Timothée Piron. On le voit, les pompiers, ils sont à pied d'œuvre puisqu'il y a plusieurs départs de feu qui continuent de grappiller cette montagne. Vous le voyez, il y a 450 sapeurs-pompiers qui sont sur place et il y a surtout des moyens aériens. Regardez juste au-dessus de nous, on voit cet hélicoptère bombardier d'eau. C'est vraiment le meilleur dispositif pour pouvoir lutter contre les flammes puisque c'est très difficilement accessible. Et vous le voyez surtout, cette reprise de feu, elle est de plus en plus forte ici à Barsac. C'est un petit village de 150 personnes qui a donc été évacué préventivement ce lundi. Mais ce qui inquiète beaucoup les habitants, eh bien, c'est que ce feu, il est en train de descendre cette montagne. Pour vous montrer, eh bien, il avait commencé tout en haut de la montagne. Il descend petit à petit, il grappille du terrain et on est maintenant à moins d'un kilomètre à peine des habitations. Et c'est pour ça, eh bien, que cet hélicoptère bombardier d'eau fait plusieurs rondes pour essayer de contenir ces flammes, un feu qui est donc très difficilement maîtrisable, qui progresse tout de même moins vite, nous ont informé la préfecture. Mais vous le voyez, eh bien, il y a encore toujours beaucoup de sapeurs-pompiers qui affrontent ces flammes et surtout des habitants, eh bien, qui craignent de ne tout simplement pas retrouver leur maison.
Romain Etuin avec Timothée Piron à Barsac dans la Drôme. Et puis on le disait, Margot de Frouville, ça commençait à être évoqué par Anthony Ferry, c'est-à-dire que c'est trois épisodes de canicule, ces chaleurs qui sont là, ça fatigue les organismes.
Ça fatigue les organismes, ça fatigue aussi les soignants. Troisième vague avec celle de fin juin qui a été d'une ampleur inédite au niveau du recours aux soins d'urgence. Tous les urgentistes disent qu'ils n'avaient jamais vu ça depuis le Covid. En fait, on était à des niveaux d'appel au SAMU plus 80% par rapport à la même période l'an dernier, des passages aux urgences aussi, des hospitalisations. Et on voit tous les signaux qui s'allument petit à petit. Là, il y a une grande vigilance des urgentistes qui suivent de près les prévisions météo avec le passage des seuils caniculaires la nuit, puisqu'on sait que le manque de récupération pèse considérablement sur les organismes. Hier, Santé publique France publiait son bulletin hebdomadaire en disant qu'il ne faut pas attendre de voir les conséquences pour prendre des mesures de prévention. Donc, une extrême vigilance, sachant qu'il y a un contexte. Certes, il n'y a plus d'école, ça c'est un point positif, mais il y a des congés qui ont commencé, donc des plannings d'été, parfois allégés, et des soignants fatigués par la première vague. Et de l'autre aussi, on sait que pendant l'été, il y a souvent des problématiques pour hospitaliser les patients encore plus que d'habitude, avec des lits qui sont plus fermés. Et évidemment, une anticipation et les établissements qui ont essayé de réduire cela au maximum. Mais quand on fait le point un peu aux quatre coins de la France sur les urgentistes, je sais que déjà à Rennes, il y a une activité qui est déjà supérieure à la normale. Sur le littoral varois aussi, une situation extrêmement compliquée avec une grève des ambulanciers privés, ce qui empêche de faire sortir des patients, donc énormément de brancards aux urgences. Donc il faut parfois juste un grain de sable et cette canicule qui vient s'ajouter à un contexte parfois déjà très tendu.
Vous parliez de cette deuxième canicule qui a été meurtrière, oui. Mais ce sont surtout des personnes à domicile qui ont perdu la vie dans les EHPAD. Ça a tenu parce qu'on a pris des mesures depuis la grande canicule de 2003, mais avec beaucoup de personnes isolées à domicile, malheureusement, qu'on a retrouvées.
C'est le premier bilan dont on dispose depuis vendredi dernier, sur la semaine du 22 au 28 juin, avec au moins 2000 décès supplémentaires. Alors, on ne peut pas dire que ce sont tous des décès liés à la chaleur. Ça, il faut attendre d'abord le bilan de la surmortalité, toutes causes confondues, et après, on fait l'imputabilité à la chaleur. Mais sur ces 2000, ce qu'avait noté Santé publique France, c'est une augmentation de 90% des décès à domicile. On sait qu'il y a eu des réunions, notamment en cellule de crise au niveau du gouvernement, pour anticiper, savoir comment s'améliorer et pouvoir, par exemple, mettre en place des zones rafraîchies. C'est déjà le cas dans les mairies, mais pouvoir faire sortir, accompagner les personnes isolées, parce que clairement là, c'est vraiment là que ça a été le plus délicat. On se rappelle des urgentistes, des médecins libéraux, des infirmiers libéraux qui racontent avoir dressé des certificats de décès à domicile en très grand nombre.
On sait que l'hôpital est saturé chaque été. Là, c'est déjà la troisième canicule. On n'est que début juillet. Oui. On n'est pas à l'abri d'une quatrième canicule au mois d'août. Est-ce que le système peut tenir? Est-ce qu'on aura suffisamment d'hommes et de femmes mobilisables?
Alors, le système, il tient toujours. Après, parfois, c'est en mode dégradé. Il faut dire que là, ce qui change vraiment, depuis l'été 2022, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça avait été compliqué. Oui. Et ils avaient dit, on va faire un système d'accès aux soins avec le SAS, vous appelez le 15, avant de vous rendre aux urgences. Là, le gouvernement essaie de généraliser cette consigne. Parce que quand vous appelez le SAMU, il n'y a pas forcément un envoi d'ambulance. Vous pouvez avoir un conseil médical. On peut vous trouver une consultation en ville. Il y a aussi des associations comme la Protection civile exactement qui peuvent venir en soutien. Donc ça, c'est un peu le premier rempart, on va dire. Et après, pour les services d'urgence, ça a été anticipé. Les plannings, ils sont pas faits depuis avant-hier, mais c'est clair que c'est tendu. Et
on déprogramme en ce moment des opérations.
On est toujours en plan Orsan Epiclim niveau 3. C'est activé depuis le 25 juin. Et on aurait pu se dire que la semaine dernière, ça c'était plus calme, mais ils ont pas voulu l'annuler parce que on sait que ça reste tendu et on a besoin d'avoir ces déprogrammations pour trouver des lits d'hospitalisation pour les patients et pour pouvoir rappeler du personnel.
Mais là, pour le moment, cette canicule va durer au moins jusqu'au 14 juillet. Mais on peut arriver déjà à faire une perspective post-14 juillet pour savoir...
Ça va vraiment baisser derrière?
Si ça va baisser, si on va avoir un peu de pluie ou c'est trop tôt là?
Alors non, en fait c'est trop tôt effectivement pour être affirmatif sur des températures, car déjà qu'on a parfois du mal de les donner avec 2-3 jours d'avance. Ce que l'on peut vous dire, c'est que à partir du 15-16 juillet, on devrait perdre 5, 7, peut-être parfois 9 degrés. Donc on passerait par exemple de 35 degrés dans la capitale à 27-28. On serait toujours au-dessus des normales de saison, mais nous ne serions plus au-dessus d'un seuil caniculaire. Donc, lorsqu'on dit que la canicule se termine le 15-16 juillet, attention, la vague de chaleur, elle ne va pas se terminer. On sera toujours dans des températures qui sont au-dessus des normales. Quoi qu'il arrive, si même notre mois d'août est pourri, excusez-moi l'expression, eh bien, à l'échelle de Météo France, cet été restera exceptionnel. Car trois canicules de suite, c'est tout simplement du jamais vu.